Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Un après-midi sur France Culture, fin 1981. Le sujet de l'émission, l'enfant est le cinéma fantastique. Comprendre le public des enfants, à savoir pourquoi les enfants aiment-ils tant avoir peur. Mais le fantastique n'est pas l'horreur et le fantastique ne déclenche pas nécessairement l'effroi. Ou comprendre pourquoi les enfants sont-ils utilisés comme personnages dans les films fantastiques. Un peu tout cela. Et également une allusion à un monstre gentil, célèbre à l'époque, mais un peu oublié aujourd'hui, Godzilla. Une époque où un jeune réalisateur américain de 29 ans présidait le festival d'Avoria et accordait une interview de quelques minutes traduite par le peintre Armand, Steven Spielberg lui-même. Cinéma donc, mais aussi musique. Les après-midi de France Culture par Sylvie Andreu, première diffusion le 10 octobre 1981.
Parole donnée, c'est une critique, un billet, une humeur de l'un de vous. Pour prendre la parole, il suffit de nous écrire. Aujourd'hui, Clotilde, 14 ans.
Samedi dernier, j'ai fait la queue, accompagnée de mon ami, à un cinéma des Champs-Élysées, pour aller voir la super production de Guillermine, le nouveau King Kong. Sur l'affiche, très prometteuse, j'ai pu voir un King Kong aux yeux clignotants, empoignant un avion militaire, qui n'apparaît d'ailleurs pas dans le film. Enfin rentrés, nous nous sommes calés confortablement dans nos fauteuils et avons ouvert tout grand nos yeux. Première image, l'embarquement d'un navire dans un grand port marchand. Puis nous suivons ses pérégrinations et celles de ses passagers. On apprend que le voyage est organisé par une compagnie pétrolière, la Petrox, en quête de nouvelles sources. On fait la connaissance de tous les personnages en présence. En tout, une heure pour rentrer dans l'action. Au troisième quart d'heure, quand même, était apparu Dwayne, Jessica Lange, nymphe sauvée des eaux qu'on ne manque pas de déshabiller chaque fois qu'on le peut. Après son arrivée, la salle trépigne d'impatience et commence à trouver le temps long. On attend la bête maintenant qu'on a la belle. Enfin, on se rapproche du but. On débarque sur l'île mystérieuse, sous les ordres du grand méchant envoyé de la ville par la Petrox. Bientôt, après l'entrée en matière nécessaire, arrive la masse, King Kong. Alors là, bravo messieurs les ingénieurs, messieurs les techniciens et autres qui avaient édifié ce primate automatique. On le voit prendre toutes les expressions de visage possibles et imaginables. On le voit même sourire. Quant au reste... Je dois dire que j'ai été assez affligée par la médiocrité du jeu des acteurs, de la construction de l'histoire et du scénario. Et d'autant plus touchée que ce film reflète les dures réalités, ou plutôt les tares de la société d'aujourd'hui. Plus rien de poétique dans ce conte d'amour fantastique des temps modernes. On y sent partout présente la société américaine et ses abus. Si c'est ça le cinéma fantastique actuel, 26 millions de dollars pour une grosse bête poilue, alors je passe de l'autre côté du miroir et je chercherai désormais ailleurs pour trouver des chefs-d'œuvre de la veine du premier King Kong. D'ailleurs, la salle, consciente du ridicule de ses marionnettes, se débattant dans un monde trop réel pour être irréel et fantastique, était littéralement effondrée de rire. Ne croyez surtout pas que les lourdes plaisanteries lancées de temps à autre par l'un des êtres évolués que l'on voit évoluer sur l'écran en sont la cause. C'était justement au moment les plus pathétiques et les plus tragiques que les rires fusaient. Enfin, après 2h30 de projection, nous sommes sortis de la salle en ayant la très nette impression de n'avoir rien vu, rien appris, rien ressenti, mais de s'être bien ennuyé devant cet affligeant spectacle de la décadence du cinéma à sensation américain.
Clotilde, qui n'a pas beaucoup aimé la nouvelle version de King Kong, est avec nous et elle reste avec nous jusqu'à 16h25 pendant toute cet après-midi consacrée eh bien, au fantastique et à l'enfance. Alors Jean-Michel Damian, nous allons parler de musique fantastique et grâce au ciel, je crois qu'il y a une autre musique fantastique que celle qui accompagne les films d'un genre fantastique.
Oui, je crois qu'il faut dire tout de suite qu'on ne va pas s'apesantir sur les musiques de films fantastiques. Celle qu'on vient d'entendre est un bon exemple. Elle a dû être composée d'ailleurs par King Kong lui-même. Et la plupart des musiques de films fantastiques sont aussi médiocres que les musiques de films moyens. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses très intéressantes. On pourrait quand même citer, parce qu'on ne parlerait pas de ne pas le faire, le travail par exemple de Stanley Kubrick, qui est un homme, disons, qui connaît peut-être un peu mieux la musique que d'autres, et qui s'amuse à illustrer ses films fantastiques de musique un petit peu différente, sans que ça ne me paraisse, moi, vraiment absolument passionnant, parce que tout le monde s'extasie en disant « Ah, Kubrick, il connaît bien la musique contemporaine, alors on entend Ligeti dans 2001, Odyssée de l'espace ». Enfin bon, ça veut dire simplement qu'il connaît mieux la musique qu'un autre, que celui qui a fait King Kong, mais cela dit, l'emploi de la musique reste très traditionnel. Donc je crois qu'on va oublier d'emblée cet aspect qui, à mon avis, est tout à fait marginal de la musique du film fantastique, et on va quand même rester tout à fait dans ce qu'a dit Clotilde tout à l'heure, puisque on va parler des musiques fantastiques de différentes époques, en ce que le fantastique est toujours relié au mythe. Parce que finalement, ce qu'elle vient de dire sur ce King Kong, c'est que dans le cinéma fantastique, dans le cinéma d'imagination pure, eh bien, chaque époque, chaque société décrit un rêve finalement, un rêve commun, qui est en général le rêve d'une société différente, ou du moins les fantasmes ou les paroxysmes d'une société dans laquelle on vit. Et ce que vous venez de dire, je crois, vous allez le confirmer là, c'est que ce King Kong, moi, que je n'ai pas vu, eh bien, ce qu'il parle de quoi ? Il ne parle pas de King Kong, il parle de la société américaine d'aujourd'hui.
Oui, tout à fait, c'est ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu.
Alors, pour la musique, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que là aussi, il faut aller plus loin. On ne va pas parler de la symphonie fantastique de Berlioz ou, je sais pas quoi, moi, de la sonate Trique du Diable de Tartini. Non, on va parler de l'imagination collective, finalement, de deux époques différentes, que j'ai choisi un peu arbitrairement pour essayer de montrer comment ça fonctionne. Et on va parler du fantastique dans le sens où des époques différentes ont eu des mythes, et des mythes qu'on retrouve curieusement avec insistance pour chaque époque. C'est-à-dire que les mythes qui font naître la musique, autour desquels la musique va tresser quelque chose, va tresser ses sons, eh bien ces mythes, curieusement, ne se mélangent pas tellement suivant les époques, ou du moins, chaque époque a ses mythes de préférence. Alors on va prendre là deux exemples. On va prendre d'abord le mythe d'Orphée pour la naissance de l'opéra et le mythe de Faust pour le 19e siècle. Bien. Alors, d'abord, le mythe d'Orphée. Alors là, on est au tout début du XVIIe siècle, en des années parfaitement privilégiées pour la musique, où curieusement, sans qu'on sache pourquoi, en 10 ans environ, eh bien, l'opéra va naître en Italie. Voilà, l'opéra naît en Italie, il y avait en Italie des formes de musique vocale, il y en avait ailleurs aussi, et puis tout d'un coup, dans les cours en Italie, on s'aperçoit que, ma foi, un spectacle entier fondé sur la voix, avec une action, des personnages, un spectacle qui soit pas seulement religieux, qui soit pas seulement une passion, un mystère, etc., c'est quelque chose de très bien. Et tous les princes italiens n'ont qu'une envie, finalement, c'est de se faire faire des opéras. Bien, alors donc, une sorte de phénomène qui est presque un phénomène de mode, enfin au meilleur sens du terme, et au tout début du XVIIe siècle, dans les années 1600, donc, va apparaître l'opéra. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que parmi les 3 ou 4 premiers opéras qui sont composés vraiment dans les mêmes années, il y en a 3 qui sont sur le mythe d'Orphée. Il y a l'Eurydice de Caccini, une autre Eurydice de Peri, et puis surtout, évidemment, ce qu'on connaît surtout, c'est l'Orfeo de Monteverdi, qui est donné en 1607 à la cour de Mantoue. Alors, pourquoi est-ce que ces compositeurs, qui désormais ont le pouvoir finalement de faire quelque chose de neuf, de faire l'opéra, puis ça n'existait pas jusque-là, pourquoi est-ce qu'ils vont s'intéresser à ce mythe d'Orphée ? C'est quand même pas par hasard. Alors, je dois dire que donc c'est un élément du fantastique d'une époque, puisque l'histoire d'Orphée est une histoire fantastique, c'est une histoire mythologique que tout le monde connaît, Orphée qui perd sa belle Eurydice. Bon, Eurydice meurt, elle va dans les enfers, et puis Orphée descend dans les enfers pour la ramener, et puis il va se retourner trop tôt, et Eurydice va rester dans les enfers, et Orphée va revenir tout seul sur Terre. Alors donc, pourquoi est-ce que les musiciens ont choisi ce mythe d'Orphée ? C'est intéressant parce que je crois qu'on le comprend que si on lit finalement ça, à la condition des musiciens à une époque donnée. Alors je dois dire que sur ce thème d'Orphée, il y a eu des études qui ont été faites, qui sont assez sophistiquées, des études qu'on pourrait appeler des études de psychanalyse, c'est-à-dire qu'il y a dans le mythe d'Orphée, effectivement, un rapport à la femme qui est assez étrange, le mélange de l'amour et de la mort. Je dois dire que je ne parlerai pas de ça, et je parlerai plutôt du statut du musicien à cette époque-là. Alors qu'est-ce qui se passe à cette époque-là ? Il se passe que le musicien, si vous voulez, est entretenu par des aristocrates. C'est-à-dire que le musicien, il est dans des cours. C'est un homme qui a une certaine dose de liberté. Mais enfin, si vous voulez, il ne se balade pas dans la nature en essayant de vendre sa musique à tout venant. Non, il est à la cour du prince machin, etc. Et ce qui fait que chaque musicien, à la fois sent peut-être une certaine forme de sécurité qu'il aura plus par la suite, mais il se sent tout à fait lié au bon vouloir d'un prince. Et étant lié au bon vouloir d'un prince, il se sent un peu fonctionnaire. Et c'est que vraiment comme ça que ça se passe. Le musicien était fonctionnaire. Il était fonctionnaire et en plus considéré un peu comme un rien du tout. C'est-à-dire qu'un musicien, ma foi, ça faisait les plaisirs, les soirées des princes et des rois, mais on les traitera encore jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, un peu comme des laquais, un peu comme des larbins. Et alors, à quoi pense ce musicien? Eh bien, il pense à ce qu'étaient ses ancêtres. Et avant, disons jusqu'à la fin du Moyen-Âge, les musiciens avaient conservé dans leur statut, dans leur personnage, un reste du statut qu'ils avaient dans l'Antiquité, qui était d'être des personnages détenteurs d'un pouvoir magique. Parce que dans l'Antiquité, si vous voulez, les musiciens avaient très souvent une part qui était très essentielle au culte des différents dieux, et on considérait que chaque musicien, parce qu'il savait les sons, parce qu'il savait l'art des sons, était capable d'avoir un pouvoir magique. Et dans toutes les religions de l'Antiquité, si vous voulez, il y a énormément de croyances, de mythes concernant les pouvoirs magiques des musiciens. Or, le mythe d'Orphée, c'est bien sûr tout à fait ça, puisque Orphée, c'est le musicien par excellence, c'est le bonhomme qui, avec sa lyre, est capable de calmer les animaux, de calmer les tempêtes, enfin, il fait tout avec sa musique. Donc, Orphée, c'est le musicien magicien. Et à ce moment-là, eh bien, les musiciens, si vous voulez, commencent à comprendre qu'ils ne sont plus du tout ça. Et ce qui fait qu'on peut penser, finalement, que ces premiers opéras, s'ils sont consacrés au mythe d'Orphée, eh bien, c'est presque une forme de revendication sociale. C'est-à-dire que le musicien est là, à un statut qui est un peu un statut de laquais, finalement, d'un grand, d'un puissant. Il lui fait une œuvre et il lui dit, voilà, dans cette œuvre-là, je vous montre qu'un musicien, c'est pas seulement être un larbin de vous, etc., et des autres aristocrates, c'est aussi un très grand personnage. Le musicien, il peut faire battre les montagnes, il est capable de calmer les animaux, il est capable de séduire les dieux et les demi-dieux, etc. Donc, je vous prouve finalement ma grandeur. Et on peut penser donc que si ce mythe d'Orphée, enfin c'est une suggestion, une idée assez personnelle, je crois que si ce mythe d'Orphée a tant intéressé les musiciens italiens à l'époque du début de l'opéra, eh bien c'est parce que leur imaginaire, leur fantastique à eux, c'était un fantastique qui décrivait ce qu'ils auraient voulu être ou ce qu'ils regrettaient en tout cas de plus être. Donc encore une fois, le fantastique comme une sorte de mythe social, le communautaire finalement d'un groupe donné à une époque donnée. Je crois qu'on peut entendre maintenant un extrait de l'Orfeo de Monteverdi. Voilà, c'est donc un extrait de l'Orfeo de Monteverdi, la musique fantastique, si l'on veut, du début du XVIIe siècle, si on entend fantastique, dans l'idée que ce mot, finalement, c'est l'acceptation par tous d'un mythe, qui est un mythe commun à une société,
et est-ce
à
que c'est
un groupe
musique,
de gens à une époque.
Oui, c'est musique à mythe, enfin, c'est musique fantastique. Est-ce qu'elles correspondent à des moments, des époques troublées de la vie des hommes?
Oh, ça veut, je ne crois pas que ce soit spécialement des époques troublées, c'est-à-dire finalement chaque société a toujours un projet social, chaque société a toujours une utopie, a toujours des craintes, et très souvent le fantastique, c'est intéressant aussi bien dans le cinéma fantastique, comme je reviens encore à ce que disait Clotilde tout à l'heure, c'est une façon d'exacerber ce qui se passe, c'est-à-dire on vit dans, par exemple, si on vit dans une société urbaine, si vous voulez, eh bien tout d'un coup on imagine qu'un monstre style King Kong est dans cette société urbaine et vient rappeler à tous ces gens qui vivent là bien calmement dans leur petite rue et leur petite ville, etc., qu'il y a une sorte de force de la nature. King Kong, ça peut être aussi bien une éruption volcanique. Donc, c'est cette espèce d'angoisse qu'il y a finalement au cœur de chaque citadin, que tout d'un coup, cette nature qui est bien calmée et qui est bien sage pourrait ressurgir. Donc, il s'agit de quelque chose qui est parfaitement situé dans le temps. On n'imagine pas King Kong, si vous voulez, dans une société de paysans du 15e siècle.
Absolument. Avant de vous laisser évoquer le second exemple de musique à mythe que vous avez choisi, j'aimerais savoir s'il n'y a pas de compositeur de musique contemporaine aujourd'hui, justement, pour traduire eh bien, les problèmes de pollution, de circulation automobile, de bombes atomiques, de terrorisme dans le monde.
Je crois que dans ce domaine-là, on peut dire que la musique contemporaine est presque tout entière fantastique, au sens où c'est une musique un peu de démolition. C'est-à-dire que la musique qui s'écrit aujourd'hui, c'est la musique de constat d'un certain nombre d'échecs et de faillites. C'est-à-dire que la musique contemporaine, quelquefois, est très heureuse, au sens où, quelquefois, elle se nourrit d'une espèce de dynamisme assez technocratique, des ordinateurs, de la réussite, etc., heureuse et souriante. C'est quand même assez rare. Ces compositeurs-là se font un peu rares. Et la plupart du temps, la musique contemporaine traduit plutôt l'angoisse, traduit la peur. Alors dans ce sens-là, et même si elle n'évoque pas un mythe, il n'y a pas, je crois, quand même de mythe aujourd'hui, ou du moins on est peut-être trop sur l'événement pour arriver à le localiser, comme on fait pour le passé. C'est une musique qui est fantastique au sens où elle va plus loin, où finalement c'est une musique qui montre comment une angoisse exacerbée peut aller jusqu'à une destruction complète de tous les systèmes finalement musicaux, les systèmes de communication. Et c'est pour ça qu'elles nous paraissent souvent difficiles à appréhender. C'est parce que c'est des gens qui sont allés plus loin et qui ressentent peut-être l'angoisse de notre époque plus fort que nous-mêmes.
Et la pop musique.
C'est une colle que
vous Non, 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 c'est une toute petite parenthèse parce que nous sommes entourés de garçons et de filles qui, j'imagine, écoutent plus volontiers des disques de
bon,
pop musique.
Ben, la pop musique, si vous voulez, il y a aussi. Alors là, il y a un mythe très précis dans la pop musique, c'est le mythe d'une société hors du temps et hors des contingences économiques. Le mythe qui régnait dans les grands festivals de pop musique, il m'est arrivé d'ailleurs de mettre mon nez, j'en vais de sourire, mais c'était celui simplement, peace and love, c'est-à-dire d'une espèce de cité, là encore une sorte d'utopie, où finalement régnerait simplement la paix et l'amour, où personne n'en voudrait à personne, où personne ne voudrait casser la figure à personne, et surtout, disons, où l'argent ne viendrait pas pourrir les rapports humains. Et la plupart des textes, si vous voulez, de la grande époque de la pop musique étaient aussi fondés là-dessus. On ne peut pas donner une réponse univoque, parce qu'il y avait aussi dans la pop musique des éléments noirs qui, eux, étaient souvent des éléments de révolte. Et alors, disons que la violence des noirs allait souvent un peu à contre-courant, du côté, comme ça, j'allais dire un petit peu béat, enfin, tu vois, très très heureux, on va tous être frères et tous s'aimer, qui était plutôt le cas, lui, de la pop musique blanche. Mais en tout cas, pour les blancs, il y avait ce mythe-là d'une cité de bonheur.
Jean-Michel, je vous remets sur vos rails après Orphée Faust.
Oui, alors j'ai choisi Faust, on pourrait parler d'autres mythes, parce que, bon, on pourrait parler de Don Juan par exemple, enfin Faust c'est bien sûr un mythe qui est typiquement un mythe du 19e siècle. Et alors bon, l'histoire de Faust, tout le monde la connaît, là encore, c'est l'histoire d'un homme finalement qui donne sa vie, enfin qui se damne, qui donne son âme au diable pour plusieurs choses, d'abord pour la connaissance universelle, parce qu'il veut connaître les choses, et puis aussi pour l'amour. Alors ce qu'on pourra remarquer d'ailleurs, ce qui est en commun, comme quoi la femme mit un certain temps à se libérer, je pense pas d'ailleurs qu'elle le soit vraiment, alors, du moins dans les
Merci
mythes,
pour elle.
Pardonnez-moi Sylvie, non, c'est pas ce que je veux dire dans la façon dont collectivement on l'imagine son sort, c'est que ça soit dans Orphée ou dans Faust, la femme est en général sacrifiée. C'est-à-dire que dans Orphée, c'est parce que l'homme ne sait pas assez bien chanter, ne sait pas assez bien jouer de la lyre, qu'elle va rester dans ses peaux, dans ses malheureux enfers. Et dans Faust, ben, on connaît l'histoire. Enfin, la malheureuse, donc, est sacrifiée. Alors, ce mythe de Faust, je crois que s'il a tant intéressé les musiciens du XIXe siècle, il y a très très peu de musiciens qui n'aient pas essayé un jour de faire un Faust. Hein. Les plus connus, bon, c'est bien sûr Gounod, c'est quand même et surtout, Dieu merci, la damnation de Faust de Berlioz. Il y a eu des œuvres de Wagner. Il y a eu, bon, la plupart des musiciens ont été intéressés par Faust, et Dieu sait que le mythe mis en forme par Goethe a vraiment eu du succès dans tous les domaines, littérature, peinture, XIXe siècle. Eh bien, c'est certainement parce que ce mythe, si vous voulez, de Faust représente l'angoisse de l'homme face au progrès. Parce que finalement, qu'est-ce qui est neuf dans le XIXe siècle? C'est l'idée de progrès. Jusque-là, la façon dont on imaginait l'avenir, enfin les sociétés, était plutôt fondée sur la conservation du passé. Alors qu'au XIXe siècle, ce sont des idées qui ont été évoquées depuis bien longtemps par des gens comme Foucault, par exemple, on commence à avoir des sociétés de progrès. Et au XIXe siècle, on commence à se dire, les choses s'améliorent. Avec les années, ça va de mieux en mieux. C'est cette espèce d'idéologie qui a duré jusqu'à, il y a de ça encore quelques années, puisque maintenant, on remet un peu en cause, disons, le fait que ça s'améliore tout le temps, et qu'on pense que c'est pas parce qu'année prochaine, ça ira pas forcément mieux que cette année-là. Et cette espèce de mythologie du progrès, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle est quand même marquée par une mauvaise conscience, parce que ce progrès du 19e siècle, ce progrès de l'industrie, ce progrès de tout un tas de choses, de la science, de la médecine, tout ce qu'on veut, il est marqué par quoi? Il est marqué par l'exploitation, il est marqué par des gens qui sont en général les ouvriers, enfin les travailleurs qui sont atrocement misérables, souvent les enfants travaillent, il est marqué aussi par l'asservissement complet des femmes. Bon, et ce qui fait qu'il y a une mauvaise conscience là-dedans, c'est-à-dire qu'on sait bien que si la société va comme ça sur son train si bien et si vite en avant, c'est en passant sur le corps d'un certain nombre de gens. Or, ce sentiment de la faute, comment est-ce qu'il se traduit? Eh bien, il se traduit comme ça, par cette idée de la damnation. Et de même, si vous voulez, on pourrait dire que Faust, ça peut être un industriel de choc, par exemple, de ces grandes époques du XIXe siècle qui sont celles du capitaine d'industrie, qui effectivement réussit à faire énormément de choses, mais ça passe par pas mal de cadavres, et ça, il le sait. Et ce mythe de Faust, c'est en grande partie le mythe, finalement, de la mauvaise conscience d'une société de progrès, mauvaise conscience par rapport à la connaissance, et aussi par rapport à la femme. Alors ça, on pourrait évoquer plus longtemps l'idée du statut de la femme. Alors je crois qu'il est temps.
Dans une autre émission, une autre émission. Oui.
Maintenant, je rappelle quand même qu'il s'agissait du fantastique à travers les mythes. On va entendre maintenant un extrait de la damnation de Faust, celle de Berlioz.
Donc un extrait de la Damnation de Faust de Berlioz dans la version de Colin Davis.
Merci Jean-Michel et à la semaine prochaine. Et 31 minutes, le fantastique à Voriaz et aux après-midi de France Culture.
Moi je pense qu'on peut pas donner vraiment de définition au cinéma fantastique. Il y a qu'à voir par exemple Duel, qui est un film vraiment. C'est un climat, il n'y a pas vraiment d'histoire fantastique, il n'y a pas de monstre. Ici, il y a un autre climat. En fait, il y a différents films qui ne sont pas catalogués sous le nom du cinéma fantastique, mais qui peuvent être fantastiques à mon avis. C'est vraiment parfait, moi je pense. Vraiment, du début à la fin, on a peur surtout là. La scène finale, quand la mère elle meurt par exemple, pratiquement comme la position du Christ. On voit quand la maison s'enfonce avec la petite statuette, exactement la même position que la mère. C'est vraiment chouette, vraiment un bon film. À mon avis, le fantastique est plus lié à l'enfance que dans le monde adulte. Déjà, je sais pas, chez les petits, il y a beaucoup plus d'irréel. Je n'ai pas encore vu vraiment de film fantastique qui traitait avec personnage, un vieillard ou quelque chose comme ça, quoi. Généralement, c'est des enfants, quoi. Je pense que c'est plus angoissant encore. Parce que ça promet, par exemple, la malédiction à la fin, il est tout petit, il a gagné. On se demande ce qui va arriver quand il sera plus vieux, quoi.
Est-ce que vous avez vu de mauvais films fantastiques ici?
Oui, on a vu un ce matin. Ghostia Goro, je crois. Ben, ça, c'est moins du fantastique, j'en suis du merveilleux. Enfin, c'est un peu facile, quoi. Et aussi, les dernières, il y a eu le massacre à la tronçonneuse. Alors là, c'est carrément. C'est facile d'exploiter, moi, je pense. Le sang, évidemment. Ça répugne les gens, ça fait peur, mais c'est pas vraiment un climat fantastique, si vous voulez. C'est trop facile comme genre de film.
Et vous pensez qu'il y a un public particulier pour les films fantastiques?
Public particulier, je sais pas, en tout cas, je pense que ça se développe pas mal. Et je trouve que c'est assez bien, ça change des formes de cinéma qui sont assez communes, comme le policier, l'aventure. Je pense qu'on peut plus s'évader déjà avec un film fantastique. Et puis même, ça permet de rêver, je sais pas, moi je trouve que c'est bien. J'aime bien le cinéma en général, mais c'est le cinéma fantastique que je préfère, quoi. Je trouve que c'est vraiment bien, ouais.
Oui, je voudrais vous présenter à nouveau les invités, enfin ceux de nos invités qui vont rester avec nous jusqu'à 16h25. Il y a Jean-Claude Remer qui est critique de cinéma, conseiller cinématographique à Antenne 2. C'est même trop peu dire parce qu'il vit dans les salles obscures, enfin c'est là qu'on est sûr de le rencontrer. Il était chargé avec quelques autres de la sélection « Difficile à faire » des films fantastiques présentés cette année à Voriaz. Il y a aussi Jean Delabroix qui est assistant de littérature à Paris 7. Il y a Arnaud Parentis, qui est un des rédacteurs d'une revue de parapsychologie L'Autre Monde. Et puis il y a Clotilde, Sylvie, Stéphane, Sophie, Emmanuel et quelques autres lycéens d'un lycée parisien. Et je vous propose tout de suite d'entendre une conversation enregistrée il y a quelques jours avec des enfants, membres d'un jury un peu spécial, qui devait décerner, toujours à Voriaz, un prix tout public, couronnant le meilleur film fantastique pour enfants. 4 films en compétition, beaucoup de pellicules gâchées à leur avis, mais l'unanimité s'est faite autour du Big Boss, parodie des films à catastrophe de l'américain James Frawley.
Par exemple, le Big Bus, ça faisait pas peur, mais c'était quand même fantastique. C'est un grand bus nucléaire, je sais pas quoi, qui fabrique.
Énergie atomique.
Et alors, il est énorme, il y a un bowling, une piscine, et puis il a 32 roues, je sais pas combien.
Ouais, tentative de sabotage.
Et il arrive plein d'aventures. Il y en a qui mettent une bombe. Et elle va bientôt exploser, puis ils arrivent toujours à s'en sortir. Puis à la fin, ils arrivent à un ravin, puis ils tombent presque.
Et alors, vous trouvez que ce film correspond à la définition la plus juste du fantastique?
Non, pas tout à fait.
Non.
Oui, il existe plusieurs catégories.
Oui.
Parce qu'il y a le fantastique, la science-fiction, où il y a même ça, c'est le sujet qui est fantastique. Mais il n'y a ni d'horreur, ni de... Les gens, ils sont normaux. Par exemple, des fois, il n'y a pas de machine, mais c'est des gens, ça peut être des robots ou alors des martiens. S'ils font des gens qui se transforment, s'ils se transforment mal, c'est mal fait.
On a vu ça dans quoi, là, les gens qui se transforment
C'est dans Godzilla. Ouais. Mais ça, c'était bien fait quand ils se transforment.
Et pourtant, j'ai l'impression. On peut peut-être dire un mot de Godzilla. C'est un monstre gentil. C'est un héros du cinéma japonais. Et qui combat d'autres monstres venus du fond des mers, c'est ça?
Oui.
Et vous avez marché, là, au ficelle de Godzilla? Ça vous a plu?
On les a vus, les ficelles, mais ça n'a pas marché.
Ouais, on a vu les ficelles. Des fois, on les voyait pas, mais quand même, vous voyez des fois que ça tirait un peu partout.
Vous trouvez normal qu'on sépare les catégories? Parce que je vous ai vu à la projection de films qui étaient réservés aux adultes. Et j'ai l'impression que vous étiez davantage touché, peut-être, ou même sensibilisé à ces films.
Oui, c'était... Oui.
Alors, c'est une erreur de jugement de la part des adultes de penser qu'il y a des films qui sont, pour les enfants.
Oui, je crois, parce qu'il y en a certains qui auraient dû passer dans notre sélection.
Oui. Lesquels, par exemple? Lesquels est-ce que vous revendiquez?
Carrie.
Carrie, oui. Los Niños,
Alice,
aussi.
Alice.
Ouais.
C'est bien, ça faisait pas peur.
Si les films nous ont pas été présentés, je crois que c'est parce que les adultes sont plus sensibles que nous sur certaines choses. C'est vrai?
Oui, c'est vrai. Mmh.
Et parce qu'ils n'ont pas osé nous les présenter, en fin de compte. Pour nous, ça...
Un carré à la fin, ah, oui, c'était assez impressionnant. Le film, c'est une fille, sa mère est un peu fanatique de Dieu, de ça, du Christ. Et elle a des problèmes, il y a ses camarades de collège, elle est en terminale, qui la persécute. Enfin, il y a une de ses camarades de collège qui demande à son fiancé d'inviter Carrie au bal du collège. Et d'abord, elle croit que c'est une blague pour se moquer. Et en fait, c'est sincère, c'est assez sincère. Et il y a un complot qui se trame entre les ennemis de Carrie. Et la mère de Carrie ne veut pas qu'elle aille au bal. Elle dit ils vont se moquer de toi, ils vont rire, tout ça. Et alors tout se passe bien, ils vont au bal. Ils sont élus roi et reine du collège. Et puis le complot là, dont je parlais tout à l'heure, ça consiste à passer un seau sur une poutre, un seau rempli de sang de porc, et on tire sur une corde, plaf, tout sur Carrie. Alors ça, c'est la rigolade générale. Et elle se concentre, il y a une sorte de cataclysme, tout s'effondre, les lumières s'éteignent, et tous ceux qu'elle a vu rire, tout, sont tués ou assommés ou décapités ou des trucs comme ça. Et alors tout s'enflamme, elle sort, il y a les membres, les comploteurs là, qui arrivent en voiture, elle les regarde, elle regarde la bagnole fonce en plein dessus, elle l'évite, elle se... contre un mur, et elle revient chez elle, il y a sa mère qui a foutu des bougies partout, tout ça. Et sa mère lui a dit t'es folle, va dans le KGB pour
demander
pardon à Dieu. Et la mère veut tuer la fille. Alors elle donne un coup de couteau dans le dos et la fille a réussi à partir. Elle se retrouve dans la cuisine et la mère arrive et Carrie se concentre et tous les objets piquants, les trucs, les ciseaux, les trucs se plantent dans la bonne femme. Et elle se retrouve comme le Christ sur la croix. Et la maison commence à brûler. Et alors tout s'effondre, elle meurt, enfin tout ça.
La dernière scène, au moment où pratiquement la seule jeune fille qui voulait du bien à Carrie, après la mort de Carrie, va lui porter des fleurs, elle rêve de ça. Et au moment où elle pose le bouquet de fleurs au pied de la croix, un bras... ensanglanté, il la tire et bon, ben ça on est saisi, on est impressionné.
Thank you.
Il y avait, disons, du romantisme et beaucoup de suspense à la fin. Très bien tiré.
C'est un film un peu d'épouvante. Je ne sais pas, c'est surnaturel, c'est curieux.
Non, je crois au fond que c'est un film très réaliste. Non, non, si, je vois ça tout le temps. Si, je vous assure.
Vous connaissez beaucoup d'intéressantes du genre de Carrie.
Oui.
Vous pensez que c'est un film qui peut être montré à tous les publics?
Je ne pense pas, non, quand même.
Je pense qu'il devrait être primé pour la première place. Aussi, ça change des autres films. Là, si vous voulez, c'est un film sur la mystique de Dieu. On voit pas mal de... À la fin, justement, quand la maison s'enfonce, c'est vraiment très bien réalisé. Tout le montage, la photo, le jeu des comédiens, c'est vraiment parfait.
Mais c'est pas la première fois qu'on utilise l'enfance comme thème d'horreur.
Parce que les enfants sont plus faibles, peut-être.
Plus influençables.
Oui, influençables.
Et en plus, je pense que c'est pour eux, c'est l'avenir, ça représente l'avenir. Et s'il y a, comme dans la malédiction, un gosse, c'est l'antichrist, quoi. Ça représente, à la fin, c'est pas mal, il va probablement devenir président des États-Unis. Et... ça présente tout l'avenir de la Terre.
Parce que les adultes, surtout quand ils possèdent des enfants, eh ben, ils sont beaucoup plus sensibles aux films quand c'est les enfants qui se révoltent. Quand c'est nous. Ça leur fait... Comme la malédiction et tout ça, ça atteint beaucoup plus les adultes que les enfants.
On dit qu'avec la télévision qui vous permet de tout voir, des images de guerre, des images d'atrocités, enfin qui viennent d'un peu partout... C'est plus possible de faire peur aux enfants, est-ce que vous êtes d'accord?
Non. Non, on n'est pas d'accord. Moi, je suis d'accord.
On peut toujours y arriver en faisant pour faire peur. Mais d'ailleurs, les gens aiment se faire peur.
Oui, ça dépend desquels.
Si, la majorité des gens aiment se faire peur.
Oui. Quand je vois les chiffres de la malédiction, les trois quarts des États-Unis l'ont vu, c'est bien pour se faire peur, je crois. C'est pas spécialement un bon film, mais ça.
C'est bien fait.
Il y a des trucs qui foutent la frouille.
On peut faire peur de différentes façons, tout le temps.
Moi, je crois que c'est surtout ce qui nous fait peur, c'est les trucs brusques et inattendus. Comme à la fin de Carrie, le bras, ça fait peur. Mais le film nous a pas fait tellement peur.
C'est surtout aussi quand ça se rapproche un peu, quand il y a des êtres humains qui sont dedans. Là, c'est plutôt encore plus angoissant que quand c'est des robots.
Ouais, quand on a vu un film où il y a des gens... Qui veulent tuer ou qui font peur, et s'ils existent, ces gens dans la Terre, ça fait plus peur que si c'est des monstres qui n'existent pas, qu'on sait que ça n'existe pas.
Surtout quand ça peut nous arriver ou on s'imagine que ça peut nous arriver.
Pendant le film, mais après, je crois.
Oui, pendant le film, mais après, en réfléchissant, non.
Mais, moi, c'est pour ça
mais inconsciemment, tu t'imagines que c'est toi.
Même dans tous les films, moi, je me mets toujours à la place de l'héros ou
du personnage. Ou l'héroïne.
Mais ça dépend, il y a des moments où j'ai peur qu'il y ait des gens qui me kidnappent avec toutes les informations qu'on entend. Ça existe des fous qui veulent toujours tuer. Quand quelqu'un veut tuer une petite fille comme ça pour son plaisir, c'est pas parce qu'il est très normal, hein, quand même. S'il y a des asiles de fous, c'est que ça veut dire qu'il y a des fous. Bah, Zia, par exemple, avec un gros monstre, bah, je sais que ça n'existe pas, je suis sûre que ça me fait pas peur. Ça me va faire de rire.
Mais non, c'est plus fantastique que Carrie ou Los Niños, moi, je trouve.
Fantastique, mais pas forcément avec des robots ou des animaux imaginaires.
Non. Je sais, mais c'est plus...
Ça peut être avec des choses réelles qui sont...
Ça peut être science-fiction, horreur, ou carrément...
Le fantastique qui vous effraie...
Ça peut être aussi rigolo, fantastique. Comme le Big Bus.
Oui.
C'est fantastique, mais c'est très rigolo.
Et ça a été...
Donc il y a, y a autant de définitions du fantastique que de films fantastiques, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je crois.
Dire on peut pas...
Parce que chaque nouveauté peut se classer dans une autre catégorie de fantastique.
Dispositif numéro 1. Tout le monde doit évacuer l'aire de lancement. Enlever les supports.
Attention, l'astre, vous avez une fuite de gaz.
L'astre, vous avez une fuite de gaz.
Vite, suis-moi. Nous avons 3 minutes. Après, ça fera boum et adieu, Bert. Toi, tu restes ici.
Toi, Thomas, si tu avais un film à faire.
Moi, l'étude des bêtes.
Ouais, moi aussi. Ah oui, les arbres, les
bêtes, des genre Fast Cat, ouais, et Squirm.
Ah oui, ouais.
Des trucs horribles.
Ou alors les trucs rigolos, fantastiques.
On enlève un vêtement et tout l'intérieur du corps qui est bouffé, ça, j'aime bien.
Moi, je pense sur les animaux, mais pas
au genre.
J'aime bien le...
Oui, il y a deux groupes là. Il y a la conquête. Alors la conquête de la planète par les animaux.
Oui.
Oui. Mais surtout la conquête du corps.
Oui. Ça, tu trouves que c'est une situation fantastique type.
Ah oui, ça, oui.
On a tellement fait maintenant que.
Et comment tu les vois ces bêtes qui envahiraient la planète?
Bah les fourmis par exemple. Fourmis, ça a déjà fait par Pascal.
Les
vers, c'est fait par Squirm. On a trouvé autre chose. Les cafards par exemple.
Déjà fait.
Les cafards qui s'étaient envahis.
Les
voitures.
Les mouches, des éléphants
se frottaient comme ça.
Parce que par des petites bêtes, c'est encore plus impressionnant.
Oui.
Parce qu'on ne s'attend pas du tout à voir des petites bêtes attaquer.
Non, des petites bêtes dans le
par exemple, une mouche, ça ne nous fait pas peur. On pourrait faire un film avec des milliers de mouches, comme les fourmis. Une fourmi, une fourmilière, ça ne nous fait pas peur. Un coup de bon, c'est fait. Alors c'est pour ça qu'elles sont mortes. Parce que... Il y a des animaux qu'on respecte parce qu'on a la trouille.
Donc finalement, c'est pas la peine de vous inventer des monstres monstrueux et articulés. Ce qui vous fait peur, ce sont les mouches, c'est ça?
Non, pas les mouches. Non,
Bah, c'est ce que Olivier vient de dire, quand elles sont très nombreuses.
Les mouches, le plus inquiétant, c'est qu'on sait que les fourmis, par exemple, je prends l'exemple de phase 4, peut-être ne peuvent pas faire ça, mais elles sont assez nombreuses pour le faire.
Ouais, elles peuvent faire quelque chose du genre.
Elles sont nombreuses.
Elles sont pas assez intelligentes pour le faire.
S'il y avait 300 fourmis pour attaquer une maison,
elles peuvent pas en faire.
Non, il y a pas 300, il y a 300
fourmis. Non, mais attends, s'il y a 300 fourmis avec une bombe, elles sont mortes toutes. Mais s'il y en a plusieurs milliers,
c'est impossible.
Ils peuvent faire quelque chose.
Jean Delavoye, je rappelle que vous êtes maître assistant à la faculté de Paris 7 et vous êtes le seul parmi les adultes ici présents à ne pas avoir assisté à ces journées cinématographiques du Festival Fantastique d'Avoriaz. Alors j'aimerais savoir dans un premier temps quels sont les commentaires que vous inspirent ces quelques réflexions d'enfants sur le fantastique.
Oui, je crois qu'il y a pas mal de choses à dire à partir de ce qu'on a entendu. Enfin, je suis un peu gêné parce que je n'ai pas vu les films. Enfin, j'en ai vu d'autres.
Oui, ils ont été fort bien racontés. Peut-être un peu trop, trouve Jean-Claude Romère. Enfin, nous tairons la scène de la fin de Carrie, on a tout oublié.
Bon, enfin, ce que je dirais quand même, c'est que l'expression de cinéma fantastique, elle me paraît tout à fait mal choisie. Enfin, moi, je parlerais plutôt de cinéma du monstrueux, de cinéma du tératologique, comme on dit en langage de métier, de jargon universitaire. Le cinéma fantastique, en réalité, il y a très peu d'exemples. J'en vois un dans le cinéma récent, et un seul, c'est au fond l'autre, qui était sorti, je crois, en 74 ou 75, je ne sais plus très bien. Moi, j'appellerais fantastique un cinéma où il n'y a pas d'effet d'horreur primaire, comme ceux que les enfants viennent de nous décrire là, dans ce qu'on vient d'entendre, mais où l'élément insoutenable, l'élément paniquant, il vient de ce qu'on ne sait pas très bien à quoi attribuer en réalité l'angoisse. Et ça, il y a très très peu de films qui jouent ce pari-là, parce que c'est un pari difficile. Alors là, on a affaire avec ce qu'on vient d'entendre à un cinéma, moi je crois, tout à fait commercial, enfin, hein, et ça pose un nombre de problèmes difficiles.
Et hein, de fond, oui.
Et de fond, un cinéma de type commercial qui joue, je crois, à la facilité, c'est-à-dire l'horreur au premier degré, avec, au fond, des choses très très simples qui jouent, on le sait maintenant, depuis que la psychanalyse est plus ou moins vulgarisée, sur toute une série d'angoisses hein, que tout le monde plus ou moins partage dans son inconscient. C'était tout à fait intéressant de voir que les enfants se sont attachés à des phénomènes que les psychanalystes repèrent tout à fait dans les rêves. Il y en a un qui dit « Moi, c'est les petites bébêtes qui me passionnent et imaginez un vêtement qu'on ouvre avec plus rien dedans, c'est formidable. » Bon, là, c'est très nettement transcrit ce que les psychanalystes appellent la castration, c'est-à-dire cette espèce d'angoisse hein, que les enfants et que tout le monde a. Hein, ça se forge au moment du complexe d'Œdipe vers 3 ans, d'être privé par le père de sa propre virilité, de son propre corps en réalité. On voit donc bien sur quelle fonction, si vous voulez, intime, ça peut jouer ce cinéma. Mais moi, ce qui me paraît un peu scandaleux, j'irais jusqu'à dire, dans ce type de cinéma, c'est en réalité l'effet que ça produit. L'effet, c'est il y a une espèce de violence qui est un principe naturel. Hein, il y a quelque chose en l'homme qui est prêt à se dérégler. Il y a des gens qui sont prêts à devenir fous, s'attirent, violer les petites filles. Il y a un des garçons ou des filles, je ne sais plus, le disait très bien. Hein. Alors ça fait.
Il y a un petit garçon qui avait la terreur de se faire enlever.
Voilà, c'est ouais. Ça, je veux dire. Autrement dit, je crois que c'est tout à fait partie prenante d'une société, la nôtre actuellement, hein, où on veut nous faire croire qu'il y a, je dirais, une espèce de fond de violence dont on ne sait pas très bien d'où il vient. D'ailleurs, on ne se pose pas la question, hein, mais dont on veut absolument nous empêcher de comprendre que la violence, elle est d'abord sociale. Alors, pour éviter qu'on pense à ça, on se dit, ben, la violence, elle est naturelle. C'est-à-dire qu'elle est au fond de nous, tout le monde peut devenir méchant, fou, hideux, scandaleux, etc. C'est-à-dire qu'au lieu de que le problème soit posé, je crois, en termes concrets, hein, dans le monde que tout le monde peut voir, on fait appel à une espèce d'irrationalisme hein, des enfants, de goût pour les choses surnaturelles. Et j'ai été très frappé par le fait qu'un des films dont parlent beaucoup les enfants, c'est un film qui mélange Dieu et la violence.
Oui. Hein. C'est un film pour adultes, destiné aux adultes.
Oui, non, mais je veux dire,
c'est le célèbre Carrie. Oui, je précise, et on ne l'a pas dit, que ce Carrie, largement évoqué et raconté par les enfants à Avoriaz, eh bien, a été primé. Et c'est le prix 1976, non, 17 77, oui, de oui. Ce cinquième festival d'Avoriaz. Mm-hmm. Et c'est un film qui est signé du réalisateur américain Brian De Palma. Jean-Claude Rameur, est-ce qu'on peut laisser Jean Delabroix dire tout ce qu'il dit, et dire en particulier qu'il n'existe qu'un seul film fantastique?
Moi, je crois qu'il est un petit peu sévère et un petit peu limitatif dans ce qu'il vient de dire à propos du cinéma fantastique. Je crois que le terme de fantastique, c'est une étiquette commode qui recouvre énormément de choses. Il peut recouvrir, bien sûr, le cinéma d'épouvante, de terreur, l'angoisse. C'est une étiquette commode. Il ne faut pas chercher autre chose. Et à l'intérieur de cette étiquette, il faut essayer de trouver les tiroirs qui peuvent renfermer différentes choses.
Oui, alors je pense qu'on pourrait demander eh bien, aux lycéens ici présents et qui vont au cinéma, je crois que c'est même, puisqu'ils sont ici, c'est que le cinéma représente eh bien, l'essentiel de leurs loisirs et de leurs jours de liberté. Est-ce qu'ils sont d'accord avec le point de vue des adultes qui viennent de s'exprimer, ou est-ce qu'ils ont une autre idée, une autre vision du fantastique? Est-ce que ce fantastique, c'est un genre comme ça, ou pêle-mêle, où on met un peu tous les films qu'on n'arrive pas exactement à classer entre l'horreur, l'angoisse? Qui veut parler?
Le fantastique...
Oui, Emmanuel, tu t'approches de ton micro, oui.
Le fantastique, on classe absolument n'importe quoi actuellement dedans, ça c'est vrai. Et surtout, on confond généralement film d'horreur et film fantastique. Pour moi, un film fantastique, c'est pas forcément quelque chose qui fait peur, même pas du tout, à mon avis. Pour moi, quelque chose de fantastique, ça se rapproche du sens étymologique, parce que ça doit être très pompier, très... ça peut rejoindre...
Un exemple de film de fantastique qui n'en est pas un, par exemple, ou qui ne répond pas à la définition du fantastique.
King Kong, pour moi, par exemple, c'est certainement pas un film fantastique.
Ouais. Clotilde non plus. Sophie.
Ou bien, par exemple, je sais pas, le tremblement de terre, etc.
Écoutez, Jean-Claude Rameur, puisqu'ils sont là et que vous êtes toujours d'excellents conseils quand vous envoyez les gens au cinéma, On pourrait peut-être, vous pourriez peut-être leur indiquer quand même
un
film fantastique. Oui, d'abord, peut-être terminer votre pensée.
Je voudrais essayer de donner très timidement et modestement une définition du fantastique, hein, au cinéma ou ailleurs. Disons que, personnellement, moi j'appelle fantastique, c'est l'irruption dans le quotidien de phénomènes en apparence incompatibles avec les lois dites naturelles. Vous voyez, c'est large, ça permet d'y mettre beaucoup de choses. Voilà ma proposition.
Oui, les enfants parlaient tout à l'heure de situations fantastiques comme étant des situations arrivant avec brutalité et de façon inattendue aussi. Enfin, oui, Clotilde.
Ça, c'est la violence. C'est pas le fantastique en lui-même.
Bon, je crois qu'il. Jean Delabroix.
Je veux dire que votre définition, elle est intéressante parce que ça suppose donc qu'il y a autre chose que du naturel. Et en particulier
oui, absolument,
du surnaturel.
Absolument, c'est pour ça. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette tentative de définition.
Oui, enfin, si vous voulez, pour moi, je crois que ça, il faut peut-être éclaircir bien le débat. Bon, il y a des événements hors du commun, disons, qui
c'est
se produisent.
Hein.
Mais alors, tout dépend de à quoi on attribue, si vous voulez, ces événements
absolument,
hors du commun. Il me semble qu'il y a plusieurs modalités qu'il faut distinguer. Ou bien on les attribue, c'est le roman policier, hein, en définitive, à des arguments explicables et rationnels. Ça, c'est ce qu'on appelle l'étrange, me semble-t-il. Et à côté de ça, alors, il y a un cinéma qui ne rattache pas ça à des causes humaines, mais à des causes surhumaines, parahumaines, tout ce que vous voulez, enfin, hein. Et ça me paraît être une espèce de version moderne, en quelque sorte, du féerique, enfin, ou du conte de fées, hein, mais quelque chose qui fait appel, justement, à autre chose que le naturel, en définitive. Mmh. Mmh. Et alors, entre ces deux catégories, entre l'étrange et puis le magique ou le féerique, eh bien, vous avez alors ce qui, d'après moi, devrait être ce à quoi on devrait réserver la notion de fantastique, qui est, hein, cette espèce de, justement, de suspens, hein, de suspension du sens, où on ne saurait attribuer ni à une cause naturelle, ni à une cause naturel ce qui se passe. Hein.
Oui.
Et je veux dire que là, dans ce sens, il y a très peu de films qui jouent sur cette carte, parce que c'est la plus difficile, bien
entendu. Mais encore une fois, c'est fonction de l'observateur lui-même. Il y a autant de fantastique que d'observateur, finalement.
Que de metteur en scène,
Le spectateur lui-même a une conception peut-être différente de celle du voisin de ce qu'est le fantastique. Chacun a son fantastique.
Oui, je suis d'accord. Mais si vous voulez, bon, en réalité, c'est pas un problème de définition, hein, c'est un problème d'évaluation de ce qui se passe dans le film fantastique. Et moi, je crois que quand on fait un cinéma à base de surnaturel, hein, ça signifie pas mal de choses, si vous voulez. En particulier, justement, je crois qu'il y a là une volonté d'affecter les violences telles qu'on peut les constater tous les jours, etc., à des causes qui ne sont pas justement des causes réelles ni des causes visibles. Et il y a là une espèce de tendance à l'irrationalité, hein, qui me paraît à alimenter ce cinéma et être alimenté par lui, si vous voulez. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Hein.
Oui, Clotilde.
Je suis d'accord, parce que dans Fantastique, dans Fantasme, en fait, c'est. Enfin, on retrouve c'est la même origine.
Absolument, oui, oui.
Fantasme.
Il y a une proximité du fantastique et du fantasme, enfin, je veux dire, hein, qui joue par là. Mais alors, je crois que ce sont des films, si vous voulez, qui justement, marchent, et si on en fait tant commercialement, c'est bien à cause de ça, c'est parce que ça joue donc sur, si vous voulez, tout le contenu de fantasmes que chacun de nous
Mais justement, à propos de ces fantasmes, je crois qu'il est une évidence, hein, mais enfin beaucoup de gens ne connaissent pas le genre fantastique. Je crois qu'il faut dire que le cinéma fantastique puise un peu élémentairement ses racines dans les fantasmes de l'enfance, non? Est-ce que ça n'est pas une parenthèse à ouvrir?
Oui,
est-ce que le genre fantastique, ce n'est pas la transposition des rêves et des traumatismes de l'enfance dans un monde adulte?
Pas seulement.
Arnaud Parentis.
Je crois qu'il s'agit simplement d'un problème de vocabulaire. Là, actuellement, nous sommes uniquement sur un problème de définition. Je pense que le cinéma fantastique puise une grande partie de ces thèmes dans la parapsychologie, dans la démonologie, finalement. Dans les phénomènes de voyance, de télékinésie, etc. Toutes les choses, finalement, qui dépassent un peu notre esprit cartésien. Je crois que c'est à peu près la définition qu'on peut donner du fantastique et de l'utilisation commerciale du fantastique actuel. Simplement, alors, qu'en pensez-vous, Jean Delabroix? Qu'en pensez-vous, Jean-Claude Romère? Qu'en pensez-vous?
Écoutez, on parlait de King Kong. Moi, je considère que King Kong est quand même un grand film fantastique. J'ai encore jamais rencontré de singe de 12 mètres de
Lequel?
Haut. Les deux. Il y en a un qui est meilleur que l'autre, je vous laisse choisir. Mais en tout cas, jusqu'à nouvel ordre, je n'ai jamais rencontré de singe de 12 mètres de haut dans la rue. Donc, c'est quand même... C'est fantastique.
Oui, c'est imaginaire. Enfin, je veux dire.
On rejoint la définition du cinéma. Le cinéma est fantastique.
Oui, on n'avance pas en disant ça. Bien
absolument.
Sûr, ça relève de l'imaginaire. Mais l'intéressant, c'est de savoir pourquoi il y a un King Kong qui est bon et un qui l'est pas. Alors là, on pourrait peut-être poser la question, et ça orienterait peut-être le débat en dehors de cette question de définition où on est un peu bloqué. Enfin, moi, je crois que tout à l'heure, quand on parlait de King Kong, c'était, je crois, une excellente façon de poser les questions. Hein. Le cinéma qui fait appel à des effets primitifs ou primaires, hein, dont, comme vous disiez tout à l'heure, hein, c'est un cinéma qui est nécessairement voué à s'épuiser, je veux dire. Hein. Et il faut toujours aller dans une espèce de surenchère. Et alors, il se passe cette chose très remarquable et très symptomatique hein, d'un certain cinéma commercial. Américain, en tout cas, c'est très net, c'est que à force de d'épuiser au fond la violence des sujets, etc., on revient au mythe, à ces espèces de premiers grands films qui ont lancé ce phénomène, mais sans se rendre compte qu'en revenant en réalité à la source de notre cinéma, on continue à répéter et donc à épuiser encore plus la force de toutes ces choses-là. Et le second King Kong, il est très mauvais, je trouve, parce que justement il falsifie complètement tout le contenu très fort qu'il y avait dans le film de Chudzak. Dans le film de Chudzak, il y avait une opposition entre la société américaine, qui est une société machinique et commerciale, et le premier King Kong, qui est cette espèce de force primitive, hein, qui était en réalité une force amoureuse, comme le premier film l'indiquait très bien. Alors, le second film est complètement paradoxal, puisqu'il ne montre plus ça, mais il montre la puissance du cinéma américain capable de faire une grosse bête, en réalité.
Absolument, hein. Je suis tout à fait d'accord avec ce
là,
que vous
c'est
dit.
Un échec
absolument.
Absolu, enfin, je veux dire.
Il n'y a plus aucune poésie, d'ailleurs.
Il y a plus,
c'est
oui,
ce qu'a dit
a...
Clotilde.
Oui,
vous oui, reprenez oui. les termes même de Clotilde.
C'est vrai, oui. Oui. Alors je veux dire, il y a une espèce d'épuisement de ce cinéma de terreur première, enfin, hein, qui fait que, alors, je ne suis pas étonné que, justement, l'un des films dont on parlait tout à l'heure soit un film au second degré, où on joue sur, par l'humour, hein, sur ce contenu, mais parce que ce contenu, il s'invalide au fur et à mesure qu'on va dans la surenchère des effets de terreur.
Enfin. Sophie, une question.
L'échec du deuxième King Kong est simplement dû à la répétition. On a déjà vu le premier film, absolument. On n'a pas envie d'avoir un deuxième
sur le même
sujet.
Pourquoi est-ce qu'on répète ? C'est ça qui est intéressant. C'est bien parce qu'on n'a pas autre chose à dire.
C'est un bassement commercial, je pense.
Oui, c'est commercial. Hein c'est
commercial. Commercial. De toute façon, à mon avis, on cherche à faire une définition très rapide du cinéma fantastique.
Non, on ne le cherche pas. Enfin, on cherche à en parler.
Oui,
mais
il y a plusieurs cinémas fantastiques. Il y a le cinéma fantastique qui se rattache au rêve, qui nous fait rêver, qui nous imprègne de visions qu'on ne connaît pas. Et il y a aussi le cinéma fantastique qui est imprégné de parapsychologie, de psychose, qui nous fait peur. Je pense que ce qui nous fait peur, c'est par exemple quand le familier devient irrationnel, par exemple qu'un petit rat devienne un monstre ou qu'un camembert devienne un objet dangereux ou qu'un couteau de cuisine vous fend en deux. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait ça. Ça, c'est la partie, si on peut dire, du cinéma fantastique qui était exploitée à Voriaz et qui, effectivement, est exploitée parfois à tort commercialement. Il y a des King Kong, il y a des Godzilla, etc. C'est pas toujours très très bon, mais après tout, il y a un public. Faut pas oublier le public.
Clotilde.
Vous avez dit que ça faisait rêver, mais je crois que ça part de nos rêves, mais ça nous hante plus que ça nous fait rêver. C'est quand... Enfin là, je parle plus spécialement des films d'horreur.
Oui.
Parce que vous en parliez, mais je pense pas que ça fasse vraiment... Enfin, ça fait rêver, mais c'est plus cauchemardesque que le rêve en général.
Oui, mais c'est là, je crois qu'on touche à ce moment l'aspect bassement commercial, c'est-à-dire qu'un producteur de film qui investit quelques centaines de millions dans un film demande une certaine rentabilité de ce film, donc il ne peut pas se permettre une créativité objective. Il est obligé de passer par certaines recettes, si on peut dire, magiques.
Malheureusement, les professionnels du cinéma ne sont pas là pour répondre à vos questions. Sylvie, quels sont les thèmes du fantastique aujourd'hui pour toi ? Quelles sont les situations du fantastique ?
Je pense toujours. C'est toujours des trucs. Des animaux fantastiques ou assez gros, plus gros que nous, qui nous mangent. Enfin.
Oui, Clotilde ?
C'est forcément plus gros.
Non, moi, plus gros, plus petit,
voilà,
non
c'est, ouais. Où ils sont plus petits, ils sont en plus grand nombre.
Oui. Mais par exemple, le spectacle d'une gare à 6h du soir, la place de la Concorde, au plus fort des embouteillages. Le terrorisme dans le monde, la bombe atomique, les pollutions, une rivière où les poissons ont le ventre en l'air.
Ne pas voir qu'une société produit de la violence. Que la violence, alors on fait croire que la violence, elle est là, comme ça, une espèce de fond interne à nous. Ouais, moi, je suis...
Clotilde,
vous dites que c'est le quotidien, mais justement, là, j'ai un exemple concret. Avant King Kong, on a vu un court-métrage qui était, en fait, en réfléchissant, c'était fantastique aussi. C'est à classer dans le fantastique. L'histoire d'un homme, enfin, c'est un rêve, en fait. mais comme on est arrivé en retard, on s'en est pas aperçu. On est arrivé et on était déjà dans le rêve. Et l'homme a un enfant malade. Et justement, à ce moment-là, il y a c'est un événement national. Les médicaments ne font plus aucun effet, aucun médicament. Bon, alors, comme c'est dans son propre... C'est son intérêt personnel, alors ça le touche. Alors, ça fait toute une histoire, mais c'est du fantastique. C'est du quotidien, parce que ça part du quotidien. Et ça aurait... Enfin, une histoire comme ça, ça peut... C'est-à-dire, le fantastique, c'est pas le fait lui-même, mais il part de là, il part du fait quotidien, il part de la rivière avec les poissons morts, il part...
Et Jean-Claude Remer n'est pas d'accord, je crois.
Si, ben, ça revient à ce que j'essayais de vous soumettre tout à l'heure, cette définition, à partir du quotidien, l'irruption d'éléments bizarres, curieux, inhabituels, qui vous amènent vers autre chose.
Mais c'est quoi cette autre chose?
Oui, c'est quoi cette autre chose?
Cette autre chose est indéfinissable, je le dis encore une fois. Cette autre chose dépend de l'observateur lui-même. Oui, moi, je peux trouver un spectacle fantastique, vous n'y verrez rien du tout.
Oh ben, non, là, je veux dire, là, on échappe à la question. Bon, on est à peu près tous d'accord sur ce que c'est que le fantastique, quoi. Hein. C'est des grosses bêtes, des petites bêtes.
Ah non, ça c'est le fantastique folklorique, enfin... et c'est le spectaculaire. Mais il y a un fantastique beaucoup plus caché, occulte, insidieux.
Dans tous les films dont on a parlé, j'en ai pas entendu parler de cet autre fantastique.
Non, mais là, c'est le fantastique d'institution, le fantastique, c'est... encore une fois, d'étiquette.
Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est justement que le cinéma institution, notre cinéma actuel, il produit essentiellement. Il produit essentiellement cette espèce de fantastique de bas étage, enfin, je veux dire. Hein.
Oui, mais là, il y a un malentendu, parce que le festival, pour parler d'Avoriaz, aborde le fantastique tel que les gens se le représentent. Si on ne montre pas ces fameuses grosses bêtes, les gens sont déçus et frustrés.
Donc, je suis bien d'accord, c'est-à-dire qu'il y a là des intérêts commerciaux qui jouent
demander à quelqu'un dans la rue ce qu'est le fantastique, il vous dira c'est quelque chose d'énorme qui fait peur, c'est monstrueux, mais c'est la définition de l'homme de la rue, ça.
Ben oui, mais enfin, ça n'empêche que c'est cette définition qui oriente pour l'essentiel la production actuelle.
Je le constate.
Ah ben oui, mais moi je le déplore.
Oui, qui veut parler? Le cinéma fantastique ne doit pas être un cinéma de spécialistes. Le cinéma fantastique doit pouvoir s'adresser à tout le monde.
Oui, mais c'est ce que dit Jean-Claude Remer.
Le cinéma fantastique est un des genres les plus populaires qui soient.
Vous dites c'est la définition de l'homme de la rue, mais l'homme de la rue c'est nous tous. Enfin ça veut dire que l'autre cinéma fantastique est réservé à des spécialistes. Ça doit pas être vrai.
C'est au niveau de l'information. Si les gens étaient un peu plus informés de toutes les formes qui existent du cinéma fantastique, ils n'iraient pas forcément uniquement que vers les gros monstres et les choses de ce genre.
Je reviens à ma question, c'est qu'il faut se demander non pas ce qui pourrait se faire de mieux ou d'autre, de mieux informé ou de meilleur cinéma, mais se demander quel effet ça produit que justement, avec des intérêts commerciaux, et pas seulement commerciaux, je veux dire, hein, à mon avis aussi idéologiques en particulier, pourquoi le cinéma des grands producteurs américains ou français s'attache à cette forme abattardie de fantastique. C'est bien que ça rapporte des sous, mais ça fait quelque chose dans la société.
Non, mais
ça.
Non seulement, c'est parce que simplement, ce cinéma est le plus spectaculaire qui soit. Montrer un singe de 12 mètres de haut, c'est plus spectaculaire que de ne rien montrer du tout et d'essayer de le faire sentir par le spectateur. À Avoriaz, on a présenté un film qui s'appelle Alice ou la dernière fugue de Claude Chabrol, où il n'y avait aucune grosse bête, il n'y avait rien pratiquement. Et bien, plusieurs personnes m'ayant rencontré m'ont demandé « Mais pourquoi avez-vous sélectionné ce film? Il n'est pas fantastique !»
C'est ça.
Alors je vous pose la question.
Mais non, mais moi je trouve ça tout à fait intéressant. Le fantastique habituel, si vous voulez, hein, pas Chabrol justement, ni l'autre, ni des films comme ça. Hein, c'est un fantastique qui matraque les gens pour faire tomber leur défense psychologique, hein, et pour faire revenir, donc ce que vous appeliez tout à l'heure, les terreurs de l'enfance, etc., qui sont pas de l'enfance, je veux dire, qui sont effectivement liées à l'enfance dans l'histoire de chaque individu, mais qui sont des terreurs toujours actuelles. Mmh. Oui, c'est ça. Hein. Mais je prends un exemple. On a un thème actuellement très courant qu'on retrouve dans beaucoup de films, c'est le thème des enfants pervers.
Oui, j'aimerais qu'on en parle.
Thème des enfants pervers. Mmh. Alors, moi, j'ai rien contre les enfants pervers, je veux dire, hein, a priori, du moins comme thème. Mais alors, je constate ceci. On voit pourquoi c'est venu au jour. C'est parce que Freud a dit un jour que l'enfant, c'était pas l'innocent qu'on croyait, mais c'était le pervers polymorphe. Alors, du coup, bon, on a des enfants pervers. Mais en réalité, si vous voulez, le représenter des enfants pervers, c'est à mon avis créer une espèce espèce de racisme, je veux dire, hein, au bout du compte. Parce que ça signifie finalement pour le public qui voit ça, ça alimente dans le public cette idée vague et toujours présente, hein, il n'y a qu'à lire François ou des tas de choses comme ça, comme quoi, bon mon Dieu, les jeunes sont effrayants, il y a dans le même pouvoir de perversité, de danger, de violence chez les
la
jeunes.
Cruauté des enfants.
Et je constate que la perversité des enfants comme thème de cinéma fantastique, c'est exactement la même chose que la perversité de la femme dans le cinéma pornographique. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours un autre, hein, l'enfant, le jeune ou la femme, qui est chargé de tous les péchés du monde. Et alors ça, si c'est pas une opération non seulement commerciale, mais idéologique, je voudrais bien qu'on puisse...
Alors là, je crois que vous venez de parler d'une chose qui est très précise, et il y a un exemple flagrant, c'est le film qui a été présenté à Vorias, qui s'appelle Los Niños.
Mm-hmm. Eh oui.
Et Los Niños représente quoi ? Des enfants de moins de 10 ans, pour
oui.
la plupart.
Qui sèment la terreur dans une île.
Et qui tuent tous les adultes.
Ouais. Qui font couler le sang. Oui, Emmanuel.
L'erreur, pour moi, c'est de dire que les enfants sont pervers, que les enfants sont cruels. Tout le monde l'est. Tout le monde l'est, mais seulement les enfants n'ont pas appris à le cacher, n'ont pas été ligotés par la morale.
Vous voulez dire qu'ils n'ont pas maîtrisé...
Ils l'extériorisent plus. Par exemple... Un enfant dira plus facilement t'es mort ou je te tuerai.
Et ouais, attention, mais quand il dit t'es mort, je te tuerai, c'est justement pour jouer comme au théâtre.
Non, parce qu'il a vraiment l'envie de tuer.
Oui, il a vraiment envie
de vengeance.
Mais justement, c'est là où vous contredisez vous-même, hein, parce que quand l'enfant dit « je te tue, t'es mort » et que le petit copain tombe par terre, c'est justement quelque chose qui canalise la violence vers je dirais, du théâtre, si vous voulez. Alors c'est en ça que justement l'enfant n'est pas plus violent que les autres. Hein.
C'est-à-dire que l'enfant n'a peut-être pas envie de tuer, mais il a sûrement envie de mettre le feu à la maison et de crever les yeux du chat, non ?
Oui, mais je veux dire tout le monde, enfin, à ce moment-là.
Bien sûr, tout le monde. Tout le monde est cruel, mais seulement l'enfant n'est pas encore ligoté par la morale. D'ailleurs,
c'est là où je crois que vous justement vous enregistrez ce que le cinéma fantastique veut faire enregistrer aux gens, c'est-à-dire que il y a de la cruauté partout. Donc elle est nulle part en réalité. Or c'est pas vrai.
Mais si pour moi si la cruauté elle est partout. Seulement la preuve c'est que la morale la refuse.
Jean-Claude Romère.
Non, je voudrais revenir sur un point important. On parlait du cinéma et des enfants. Mmh. Je voudrais préciser qu'aux États-Unis, les films d'épouvante, les films de gros monstres, les films d'horreur sont faits pour les moins de 13 ans. Alors qu'en France, ce genre de cinéma est interdit à ces mêmes jeunes. Et toute la production que nous avons vue arriver, les films de l'American International, étaient des films produits pour les jeunes Américains de moins de 13 ans. Et quand les critiques les trouvaient débiles, lamentables, etc., ben pour cause, c'était des produits extrêmement bâclés, faits avec un très petit budget. Et en France, on était affolés, terrifiés de voir des jeunes assister à ce genre de spectacle. Ce sont deux formes d'éducation totalement différentes.
Je ne voudrais pas interrompre cette conversation, mais je vous demanderai d'écouter maintenant une conversation que j'ai eue avec un homme fort discret, un des réalisateurs les mieux payés du monde, auteur de films à sensation fantastique, très couru du public, puisqu'il est le réalisateur de Duel, de Sugarland Express et des très célèbres Dans la mer. Il était cette année le président de ce 5e festival du film fantastique d'Avoriaz et je l'ai rencontré accompagné du peintre et sculpteur Armand, lui-même membre de ce jury et qui a bien voulu faire l'interprète. Et la première de mes questions, j'ai demandé à ce garçon de 29 ans comment est-ce qu'il faisait pour rester aussi simple.
I think people are more filmmakers especially are more real. Yeah. In the 70s than they were in the early 60s. There's not so much pretension any longer.
Je crois qu'il a dit quelque chose de bien aussi d'important. Il a dit que c'était que les metteurs en scène des années 70 sont beaucoup plus réels, naturels, que ceux des années 60. Il y a moins de prétention.
Son enfance est toute proche. Est-ce que dans son inspiration, est-ce qu'il subsiste encore beaucoup de ses rêves d'enfant, de ses fantasmes d'enfant, de ses... des légendes qu'il a pu lire et écouter quand il était enfant.
Well, yeah, I think I'm one of the most frightened people around. I have so many symptoms of fear that when I make a movie like Jaws or like Close Encounters, I'm in a way exercising the fear out of me and to the audience.
Oui, il est une personne très impressionnable et quand il fait des films comme ça, il fait passer sa peur dans le public.
Vous pouvez lui demander s'il lui arrive de se faire peur à lui avec certaines de ses scènes.
Well, not really, because films are so technical that you know, it's very hard to frighten yourself when you know where all the pieces go. But in the story, when I begin to direct the story, sometimes I'm very cautious at night to leave the light on while I'm typing. You
know, au moment où il fait le film, non, parce que la technique a tellement de problèmes techniques que ça lui fait pas trop. Il n'y pense pas trop. Il pense surtout au travail qu'il est en train de faire. Mais quand il le prépare, au moment où il le prépare, il lui arrive même de faire attention de laisser la lumière allumée chez lui.
I remember when I began making Jaws, I was very, very careful to remember from my childhood that I almost drowned and how it felt to see the water at the level of my eyes. Underwater and the sky, underwater and the sky, and I used that in Jaws several times.
Il a failli se noyer quand il était jeune, et ça, il a fait très attention de s'en rappeler et d'avoir cette terrible sensation d'avoir tout d'un coup l'eau qui vous monte près des yeux, de tout à coup disparaître, revoir le ciel.
Et là, j'entends qu'il parle de Jaws, c'est-à-dire qu'il fait référence au film Les Dents,
de la
mer.
Les Dents de la mer, oui, tu vois.
Quels sont pour lui les thèmes principaux, les thèmes majeurs du fantastique aujourd'hui?
I know that in general, in all fantasy films made today, the technique is to begin with reality and make people believe that it is really happening and it is not science fiction, it is science fact.
Alors, il y a une chose qu'il a remarqué surtout, c'est qu'il y a une tendance maintenant à faire des films fantastiques basés sur la réalité et être très fort sur cette direction de faire sentir aux gens que c'est possible, que ça peut se réaliser, que c'est la part de la vie de tous les jours.
Et ça l'intéresse? C'est une évolution
qui
l'intéresse?
Oui, mais c'est une évolution qui l'intéresse et qu'il a remarqué même avec d'autres films, d'autres...
Donc il considère qu'on s'éloigne un peu du merveilleux de l'enfance et...
Oui, il peut réapparaître, mais il doit partir sur une réalité. Sur une réalité de la vie de tous les jours, qui doit vous prendre comme ça. Le fantastique va vous prendre par surprise à travers la réalité.
Est-ce qu'il sait pourquoi le public est si nombreux à aller voir ces films? Ça n'est pas seulement parce que la publicité est bien faite.
Il pense d'abord que c'est le thème des films qui intéresse les gens qui vont le voir. Et en ce moment, dans le film qu'il est en train de préparer, qui s'appelle Proche Rencontre, qui a à voir affaire avec les extraterrestres, par sa technique, il fait très attention que les gens ont l'impression que c'est à eux que ça arrive.
Quelle est la scène des Dents de la Mer à laquelle il tient le plus?
Difficult.
It's difficult because there were other sections I wish I could reshoot. I suppose I prefer the first victim.
Ce qu'il préfère, c'est la première victime.
The girl who swims out a little too far. And she feels a tug, and she reaches down, and there's nothing there, and the shark takes her.
La première victime, quand la jeune fille nage un peu trop loin, tout à coup elle a l'impression qu'elle est tirée. Il y a rien autour, et hop, le requin la.
For me, it was very erotic. It was not terrifying. For me, it was almost poetic in a way, sensual. Yes. Yeah.
Alors, et pour lui, la manière dont il a fait comme ça, avec la nuit, la fille qui va se baigner du tout, c'était un peu sensuel aussi. C'était pas tellement terrifiant, la première victime.
In any case, it's no way to go. It's no way to die.
C'est, dans ce cas, c'est pas une manière de mourir, quoi. C'est hop, comme ça.
I think if the movie were about people falling off cliffs, it wouldn't have done half as well.
Si le film a été à propos de gens qui tombent d'une falaise, ça n'aurait pas fait le même effet comme ça. Cette sorte de disparition est moins terrifiante.
Et quand il observe les gens autour de lui, ou tout simplement la ville et les hommes, est-ce qu'il lui arrive d'être directement inspiré pour ces films fantastiques?
Tellement qu'il est toujours avec un petit carnet, et comme il pense qu'il a une mauvaise mémoire, il prend des notes chaque fois que quelque chose l'a intéressé dans ce qui arrive autour de lui. Et il le relit de temps en temps pour voir de quelle manière il peut l'user.
Il n'est pas obligé de répondre, et c'est ma dernière question, mais est-ce qu'il a vu quelque chose de fantastique et de remarquable à Avoriaz?
I saw the greatest ski slope today I ever saw in my life.
Il a vu les plus belles pentes de neige qu'il ait vues de sa vie. Thank you.
bien, ce mot de la fin, nous l'avons donné à Steven Spielberg, réalisateur des Dents de la Mer. Et je voulais dire que dans notre studio, eh bien, il a fait sourire nos invités. Je vous rappelle que j'étais en compagnie de Jean-Claude Romer, critique de cinéma, de Jean Delabroix, assistant de littérature à Paris 7, et de Arnaud Parentis, eh bien, qui est un des rédacteurs de la revue L'Autre Monde, ainsi que de Clotilde et de ses amis d'un lycée parisien.
L'émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture dans les après-midi de France Culture le 10 octobre 1981.